Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à un autre épisode de Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez toujours aussi bien. J'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau à l'émission aujourd'hui un grand marcheur, un excellent pédagogue et un animateur d'activités de plein air hors pair. Il s'agit de Michel Desgagnés, cofondateur avec Marie-Lyne Étier de l'organisme Santé à pied. À sa plus récente visite en novembre dernier, Michel nous a entretenu de la marche nordique avec toute la passion qu'on lui connaît. Dans quelques instants, il nous invitera à effectuer le grand virage de la marche passive à la marche active. Il nous entretiendra aussi d'une fascinante initiative de randonnée sur les sentiers autochtones dans l'ouest du Canada. Bonjour Michel et merci encore une fois d'être des nôtres dans notre exploration des nombreux bienfaits de la marche sur l'individu et, comme nous le verrons plus tard, sur la société tout entière.
Merci beaucoup Denis de cet accueil.
Alors Michel, avant d'entreprendre ce grand virage justement de la marche passive à la marche active, il serait intéressant de revenir au fondement même de la marche. Ça peut paraître simpliste, mais qu'est-ce qu'on entend par marche?
D'abord, c'est important de signaler au départ la grande évolution. Nous venons, comme on le sait, il y a 6 millions d'années, des primates. Et c'est la dernière fois, finalement, que nous avons partagé un ancêtre commun avec les primates, il y a 6 millions d'années. Il y a cependant un hiatus entre ce 6 millions d'années et ce 3,2 millions d'années, et je m'explique. En 1974, en Éthiopie, dans la fameuse faille du Rif, qui va de Tanzanie, Ouganda, et ainsi de suite, jusqu'au Liban, en fait, on appelle la faille de l'Est africain, on a découvert des ossements qui ont étonné le monde entier. Elle est très connue sous le nom de Lucy.
On la connaît bien.
Voilà, puisqu'en 1974, les jeunes archéologues qui ont découvert les ossements avaient fêté ce soir-là cette découverte magistrale en nommant la personne comme Lucy. C'était un squelette féminin. Ce que nous apprend ce squelette, c'est effectivement la formation d'un corps avec une colonne vertébrale identique à celle que nous avons aujourd'hui et des pieds à peu près semblables. Or, la façon dont le métatarse était installé dans le pied de Lucy, on en a déduit effectivement que cet australopithèque afarensis, comme on l'a appelé, était bipède. Donc, il y a une question qui se pose, effectivement. Au moins, depuis 3,2 millions d'années, nous sommes bipèdes. Nous le sommes devenus, puisque nous avons quitté la quadripédie à ce moment-là. On a donc appris, effectivement, à nous déplacer sur deux jambes. Je n'ai pas utilisé le mot « marcher » encore, parce que vous allez comprendre après pourquoi la signification du mot « marche »,« marcher ». On se déplaçait. C'était le mouvement naturel que nous avons développé et nous l'avons fait systématiquement en découvrant la planète à pied. Et jusqu'à peu près au 19e, fin 19e siècle, les êtres humains se sont déplacés sur deux pieds pour se rendre travailler la terre, pour se rendre au premier hameau, pour traverser les forêts, ainsi de suite. Ce n'était pas, dans un sens, une activité ludique. C'était un mouvement nécessaire pour se déplacer. Pourquoi la marche est devenue ensuite un exercice de bien-être? Cela a commencé, entre autres, en Angleterre, avec un poète, William Wordsworth. On est au 18e siècle à ce moment-là, et chez les aristocrates anglais, on commence à développer des jardins. Or, les jardins sont très grands, il y en a qui vont jusqu'à 2 kilomètres, et ce sont les dames, parce que les femmes ne pouvaient pas sortir vraiment, mais lorsqu'ils étaient à la campagne dans leur château, elles marchaient dans le jardin, elles se promenaient. Tout à coup, la marche prenait là une dimension esthétique et ludique.
Elle est passée de utilitaire
et voilà,
à ludique.
À ludique, au bien-être, si vous voulez. Et c'est là qu'on a compris, en fait, que la marche avait une fonction absolument extraordinaire, celle d'abord de mieux nous oxygéner et de mieux renforcer nos chaînes musculo-squelettiques. Sauf que ça, c'était réservé au mieux nanti. Les gens travaillaient la terre à ce moment-là ou travaillaient dans les factories depuis la révolution industrielle au 18e siècle, au 18e siècle à peu près. Et il n'y avait pas vraiment un aspect ludique à la marche. C'est pour ça que je ne parle pas de la marche à ce moment-là. Ah, je parle de la marche dans l'esprit d'un investissement de notre corps et de notre esprit à une activité saine. C'est très différent d'être un facteur qui passe la poste, par exemple. Là, il y a une dimension utilitaire.
Oui. Alors, on passe de Lucie à la marche utilitaire, un peu ludique au 19e siècle, et nous arrivons au 20e siècle.
Oui, voilà. Et là, il y a une césure, parce qu'au 18e siècle, au tout début du 20e siècle, on a un individu qui s'appelle Henry Ford, qui va pratiquer la taylorisation, c'est-à-dire en mettant sur une chaîne d'assemblage les véhicules munis par un moteur à combustion, qu'on a appelé une automobile. Et très rapidement, on va se rendre compte que l'automobile va avoir un impact énorme dans l'aménagement du territoire. Et ça donne l'urbanisme que nous avons dans nos villes aujourd'hui, c'est-à-dire des villes qui sont plus conçues pour l'automobile, les déplacements en automobile, que pour les piétons, par exemple. On voit encore des accidents tragiques où les piétons se font happer littéralement dans les villes. Et donc ça, c'est un résultat, effectivement, du fait qu'on a abandonné, dans une certaine mesure, nos déplacements utilitaires par l'automobile. Et on va créer de plus en plus une autre fonction qu'on va attribuer à ce déplacement-là, c'est-à-dire la marche de bien-être, la marche de santé qu'on appelle, ou la longue randonnée, ou ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est M. Wordsworth, le poète, avec sa femme, qui vont être le premier couple véritablement à faire de la longue randonnée en Angleterre. Et là, on est autour de 1790 à peu près. Avant ça, c'était fort difficile, parce que d'abord, les chemins n'étaient pas sûrs. Il y avait beaucoup de brigands et tout ça. Et c'est les femmes qui en subissaient plus les conséquences parce que c'est elles qui étaient les plus vulnérables dans le fond. Heureusement, on a passé cette période-là, on arrive aujourd'hui. L'autre revers, cependant, de l'automobile, c'est d'accentuer la sédentarité. Assez bien que l'organisation, comme tu le sais, Denis, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la sédentarité était devenu le principal facteur de morbidité chez les humains et même plus grave que le tabagisme en termes de mortalité. C'est normal, le corps, depuis le début, il est fait pour bouger. Pour se mouvoir. Toutes nos chaînes musculo-squelettiques sont conçues et ont évolué dans le sens du mouvement. Alors, à partir du moment où j'arrête le mouvement, il y a quelque chose qui se passe forcément dans ma biologie interne qui va faire que, oui, je peux prendre du poids parce que je dépense pas suffisamment de calories alors que je mange beaucoup plus. Et donc, ce déséquilibre, en fait, va provoquer les différentes maladies que nous avons. En plus, il y a aussi un autre élément, c'est que on ignore maintenant ce qu'est notre corps parce qu'on ne l'utilise pas.
On a oublié.
Et voilà. Et donc, si on décide, par exemple, du jour au lendemain d'aller marcher, on risque d'avoir plutôt une marche passive. Et je vais définir la marche passive par le fait que, si je prends, par exemple, l'exemple qu'on voit le plus fréquemment, on a le menton vers l'avant, la tête est légèrement penchée et donc ça comprime la gorge. Ensuite, comme la tête est penchée, les épaules suivent, on a donc la poitrine serrée. Ensuite, au niveau du bassin, forcément, comme le haut du corps est mal enligné, tout le reste va s'en suivre jusqu'aux pieds.
Jusqu'au pied.
Jusqu'au pied. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est très, très important, lorsqu'on décide de se mettre à marcher, de marcher avec tout son corps et son esprit et de s'investir 100% dans la marche. En fait, dans ce sens-là, c'est un exercice de concentration extraordinaire qui nous donne d'ailleurs une discipline mentale et qui va faire que peut-être un jour, la marche va devenir un mode de vie.
C'est ce qu'on vise.
Et on change physiologiquement complètement. Oui. Si je vous montrais, par exemple, un exemple ici que vous avez devant vous, si on regardait ce que ça veut dire, si on sait que, d'abord, on va se comprendre, la tête, c'est l'organe le plus lourd.
Le plus lourd,
corps.
Tiens.
Oui. On est à 10-12 livres. Je m'excuse, là, peut-être qu'en kilos, si tu computes assez rapidement, Denis, tu pourrais nous donner une indication.
C'est peut-être la moitié, là.
À peu près.
Loin.
Mais
oui,
tu sais,
oui.
10-12 livres, là, c'est oui. lourd. Dès oui. que je déséquilibre ma tête, c'est-à-dire oui. que je la penche vers l'avant, oui. Je vais augmenter les pressions que je vais exercer sur l'ensemble de ma colonne vertébrale. Si, par exemple, ma tête est inclinée de seulement 15 degrés, c'est pas beaucoup, 15 degrés, hein? Ben, à ce moment-là, j'augmente une pression de 27 livres qui va s'étaler sur la colonne vertébrale.
27 livres?
27 livres pour simplement 15 degrés d'inclinaison vers l'avant. Si, par contre, 30 degrés, aussi c'est assez fréquent de voir des gens, prenez les gens qui consultent par exemple leur téléphone portable, qu'on voit souvent au coin d'une rue, un arrêt d'autobus, 30%, là, 30 degrés, là, c'est vraiment assez commun, mm-hmm. Ben, il faut que les gens comprennent que lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable et que leur tête est inclinée à 30 degrés, ils viennent d'ajouter 40 livres de pression sur leur colonne vertébrale. Maintenant, on parlera pas des écrans, parce que là, c'est encore pire.
C'est pire.
Puis, si vous passez, par exemple, 5 heures, 6 heures de travail à votre écran sans vous lever, vous venez d'aggraver terriblement les pressions que vous exercez et beaucoup de gens vont se plaindre ensuite d'un mal de dos, mm-hmm. parce que ça va se répercuter également au niveau lombaire. Donc, dans ce sens-là, moi, quand je reçois les gens, je travaille d'abord et avant tout la posture. Mais on va se comprendre tout de suite, là, Denis, tu sais, moi, je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis pas un physiothérapeute ou un kinésithérapeute, je suis essentiellement quelqu'un qui a travaillé en journaliste, qui a pris sa retraite, et comme beaucoup d'autres comme moi qui ont fait du travail clérical, on se retrouve à la retraite, on a envie de faire quelque chose, on a envie enfin de bouger, mais on bouge mal, on a des douleurs et ainsi de suite, et tout à coup, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui va pas? Et dans ce sens-là, moi, je me suis mis, grâce à ma compagne, je dois le dire aussi, qui a pris sa retraite à peu près au même moment, et tous les deux, on a travaillé dans des emplois qui étaient stressants, exigeants, des heures de tombée, des dates butoirs et ainsi de suite. Se libérer de ça, déjà, c'est énorme, mais comment ensuite en profiter? Alors, c'est là qu'elle a pris des cours, elle est devenue formatrice d'entraîneur de marche nordique. J'ai suivi donc son exemple. Ensuite, la marche afghane est arrivée dans le décor au Québec grâce à Madame Sylvie Alice Royer. Et puis ça, c'était extraordinaire parce que là, tout à coup, on travaillait la respiration. C'est ça le secret de la marche afghane. Là, c'est la marche des nomades. Et ensuite, on est allé plus vers le Shirinyoku. On est allé vers d'autres exercices. Et on a développé ensuite, avec les gens autour de nous, qui avaient les mêmes problématiques. C'est-à-dire que ils prenaient leur retraite. Ces personnes-là voulaient voyager, voulaient peut-être même voyager de façon écologique, c'est-à-dire plus comme randonneur que assis dans un autobus à faire le tour des villes. Puis bon, alors on s'est dit, OK, c'est le fun, on va commencer. Mais qu'est-ce que c'est, nous, l'esprit? Alors, l'esprit, c'était en fait de faire une intégration de notre investissement mental et de notre corps. Okay? Donc, ces deux-là nous ont amenés d'abord éventuellement à être très rigoureux sur le plan de la posture, à se redresser, à comprendre que les pieds, par exemple, n'exploitent pas normalement ce qu'ils ont été faits pour avoir une flexibilité. Mm-hmm. Il y a trois points de bascule essentiels qu'il faut comprendre dans le pied. C'est d'abord le talon, la plante du pied et les orteils. Et la propulsion se fait dans un mouvement fluide en comprenant les trois points de bascule. Ce qui arrive, c'est que les gens font plutôt pose le pied, mais presque à plat sur le sol. Ça vient résonner dans les articulations des chevilles, des genoux et des hanches. Alors que si je fais vraiment un bon déroulement de pied, je vais pouvoir exploiter les vrais éléments d'une marche, d'un pied qui avance. C'est pour ça que je dis chaque pas est une aventure lorsque nous marchons, parce qu'elle va impliquer l'ensemble des chaînes musculo-squelettiques du corps.
Est-ce que ce déplacement du pas, du pied, fait partie de cette marche active?
Exactement. Donc, mais pour qu'on arrive à la marche active, il faut comprendre que chaque partie du corps a son rôle à jouer et c'est un rôle qui doit être bien aligné. Donc, si je prends, par exemple, la chaîne musculo-squelettique qui part des pieds jusqu'au bassin, je vais avoir l'articulation de la cheville, l'articulation des genoux, l'articulation des hanches. Et qu'est-ce que je veux faire avec ces trois articulations? C'est de m'assurer qu'elles soient dans un plan totalement aligné. Je marche devant, eh bien, mon alignement doit être effectivement à respecter. Ensuite, j'arrive à la chaîne musculo-squelettique supérieure. Habituellement, elle est aussi importante que la chaîne musculo-squelettique des pieds au bassin. Pourquoi? Parce que celle aussi doit travailler. Elle doit travailler en harmonie. Alors, c'est pour ça que, par exemple, on va faire, vous le savez, vous le voyez, un balancement naturel des bras quand on marche, et c'est toujours en synchronisation opposée. Hein? Le bras est opposé à la jambe opposée. Bon, donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, avec la conscience qu'on y met, on va accentuer un petit peu plus le balancement naturel des bras de telle sorte qu'il va se créer une légère torsion au niveau de la colonne vertébrale, ce qui va renforcer les muscles spinaux. Les muscles spinaux, ce sont les muscles très longs qui longent de chaque côté la colonne vertébrale. Et c'est très bon également pour le rachis de la colonne vertébrale, la moelle épinière. Okay? Donc, là, on vient de réveiller à la fois aussi les muscles, les obliques, ceux qui, par exemple, un corset, hein, on comprend juste la notion de corset,
oui.
Ce sont des muscles profonds, conjonctifs, et qui viennent nous tenir. Les obliques nous tiennent également, les transverses qui entourent les côtes et le bassin sont également des muscles importants, et avec la torsion, la légère torsion que nous faisons en marchant, on va renforcer l'ensemble de ces muscles-là. Les organes vont mieux travailler aussi dans le fait même. Et je dis que de tout ça, ça va très bien. Mais il y a une condition. Ce n'est pas le pas qui conditionne le rythme de la marche. C'est le souffle, c'est votre respiration. Autrement dit, dans la respiration, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement d'inspiration et un mouvement d'expiration. Ce que je conseille habituellement aux gens, c'est par exemple, un inspire deux pas.
Inspire deux pas.
Un inspire deux pas, un expire trois pas.
Mmh.
Mais si vous voyez au bout de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, que vous avez une meilleure capacité pulmonaire, rien ne vous empêche de faire un inspire 3 pas et un expire 4 pas. Rien n'empêche, si vous avez encore mieux, d'aller faire 4 et 6. L'idée, c'est d'avoir un inspire un peu plus court que l'expire. L'expire vous permet
de vider
vos poumons. Vider pour poumon, c'est un mot, il faut faire attention parce qu'on vide jamais complètement. Le dernier souffle, c'est celui de la mort et du décès. Ah, il reste toujours un résiduel dans les poumons. On se comprend? D'accord. Mais ce qui est extraordinaire, je vais juste terminer là-dessus, ce qui est extraordinaire avec le souffle, c'est un apport d'oxygène. On optimise notre apport d'oxygène qui est la nourriture la plus précieuse. Si vous arrêtez de respirer pendant 3-4 minutes, je ne donne pas cher de votre peau. Hein? Par contre, vous pouvez arrêter de manger pendant 1 mois à condition que vous buvez de l'eau.
Oui.
Et si vous ne buvez pas d'eau, vous allez probablement trépasser au bout de 3-4 jours. Okay? Avec la respiration, au bout de 3-4 minutes, vous trépassez si vous n'allez pas chercher votre apport d'oxygène.
Et là, vous parlez d'une respiration profonde et d'une expiration profonde,
oui.
Les deux?
Oui, mais je dis aux gens au départ, ne vous inquiétez pas de savoir si elle est profonde ou elle n'est pas profonde. essayez juste de prendre le rythme. Vous, comme je dis, vous inspirez sur deux pas, vous expirez sur trois pas. Vous sentez-vous à l'aise avec ça? OK, parfait. Maintenez ce rythme-là pendant un certain temps, sachant cependant qu'en améliorant vos capacités pulmonaires, vos poumons, là, ils ne changeront pas. Vous avez les capacités que vous avez, mais vous pouvez travailler vos capacités pulmonaires. Sachant cela, ne vous inquiétez pas, vous allez augmenter votre capacité à vous oxygéner. Et n'oubliez jamais une chose. Pourquoi cette oxygénation et cette marche est bonne pour le cerveau? Parce que 20% de l'oxygène que vous inspirez s'en va au cerveau. Le cerveau est gourmand. Dans ce sens-là, là, on peut parler vraiment d'un investissement de soi dans l'activité que nous allons exercer. Et je dis toujours, moi c'est un mode de vie, soit dit en passant, je marche à tous les jours. Je ne vous dis pas les distances pour le moment, là, on en reviendra plus tard, mais à tous les jours, je me suis discipliné à dire, je marche coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, peu importe.
C'est l'habitude, c'est la discipline.
Oui, puis finalement, votre corps va vous le
et
dire.
Et on prend l'habitude.
Absolument. Puis vous n'êtes pas capable de vous en passer. Oui.
J'ai une question parce que je vous écoute parler de la marche active que j'aime beaucoup. Vous semblez solliciter à peu près tous les muscles du corps, un peu comme on le fait en natation peut-être.
Oui, oui.
Et je me dis, bon, moi je marche beaucoup. Il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui marchent beaucoup. Donc, le bas du corps, comme on dit, peut être solide. Mais le haut du corps, on dirait que ça faiblit un peu. Là. Il me semble que je devrais passer au gym de temps en temps, faire de la musculation. Oui. Est-ce que la marche active... compense, remplace...
Vous pouvez faire du renforcement musculaire en marche active, autant des bras, d'ailleurs, des muscles internes, absolument. Sauf que on travaille toujours dans la conscience. Hein? Donc, si j'ai une bonne posture, que je regarde devant moi, que je ne regarde pas mes pieds, que ce n'est pas une attitude introspective que j'ai, mais une attitude très généreuse par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Alors, ça peut être traverser un boisé, ça peut être traverser un parc urbain, ça peut être même marcher sur la rue du quartier, mais je ne conseille pas d'emprunter des rues de transit ou des artères. Parce qu'après tout, si vous êtes pour améliorer votre oxygénation, essayez, si possible, d'éviter les artères passantes pour les automobiles, puisque là, vous risquez d'inspirer plus de gaz carbonique que d'oxygène.
Alors, j'en reviens à la musculation. Comment on fait pour, justement, renforcer les muscles?
OK. Alors, revenons à la posture.
Oui.
Si vous vous tenez la tête bien sur son axe, donc ça veut dire que le cou est légèrement allongé, que vous avez votre tête qui est bien posée, vous avez ensuite les épaules. Les épaules, ne travaillez pas avec. Laissez-les reposer sur votre ceinture scapulaire. Les pauvres épaules, on est rendu que, à force d'être toujours stressé, on a les trapèzes, là, et le cou. Non, il faut juste essayer d'abord et avant tout de dire, quand je vais marcher, avant de marcher, faites-vous un examen qui part de la fontanelle du haut de la tête et qui va jusqu'aux pieds.
La détente totale.
La détente totale et qui va des pieds jusqu'à la tête. Et là, vous avez fait votre examen. Est-ce que je me tiens droit? Est-ce que mon corps et ma tête est bien placé, mon cou est allongé, mes épaules reposent sur la ceinture scapulaire et mon bassin suit parfaitement la ligne. Suit parfaitement une ligne qui va du milieu du front à la pointe du nez, au milieu du menton, jusqu'au milieu du bassin à l'os pelvien. Si vous avez un alignement exact, vous n'aurez pas de problème, vous commencez à marcher à ce moment-là. Mais lorsque vous commencez à marcher, dites-vous que c'est le souffle qui va diriger votre rythme et non le pas. Ça, c'est très important. Le souffle, ça, vous pouvez enfin le contrôler. Normalement, là, sur les 22 000 respirations que vous faites dans une période de 24 heures, hein, vous êtes conscient d'aucune de ces respirations. Mais là, tout à coup, parce que vous décidez de marcher, je vais prendre conscience que je respire. Et c'est la respiration, c'est toujours un inspire et un expire. Voilà.
Alors, Michel, on prend une courte pause et on revient à cet aspect dont vous avez parlé il y a quelques secondes, la marche introspective.
Oui, absolument. D'accord.
Nous sommes en compagnie de Michel Desgagné. Nous parlons de marche active. Et Michel, marche active et introspection, il me semble que ça ne va peut-être pas de pair. Est-ce que je me trompe?
C'est-à-dire que la marche introspective, je la vois beaucoup comme une marche passive. Pourquoi? Parce que dans l'introspection, on fait souvent des ruminations. Et on pense à toutes sortes de choses, sauf à l'action que nous menons au moment où nous la faisons. Mmh. Alors, c'est pour ça que j'écarte un petit peu la notion de marche introspective comme marche active. Par contre, la marche active, c'est aussi de se concentrer. Donc, on se concentre par l'esprit, évidemment. On se concentre à ce que nous faisons au moment où nous le faisons, c'est-à-dire on vit à l'instant présent. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans l'avenir. Le passé est passé, l'avenir n'est pas encore arrivé. Et donc, qu'est-ce que je fais au moment où... Qu'est-ce que je fais quand je fais quelque chose au moment où je le fais? Et si je mets toute mon attention là, ça veut dire que ça va vous prendre peut-être, dépendamment des gens, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois. C'est pas très grave parce que de toute façon, vous vous investissez petit à petit à chaque jour et vous avancez dans l'acquis de cette concentration qui va d'ailleurs favoriser, si vous pratiquez la méditation, qui va favoriser beaucoup la méditation. Et moi, la méditation marchée, j'ai développé, grâce à un moine que tout le monde connaît, j'imagine Thich Nhat Hanh, qui est mort il y a 2 ans maintenant, mm-hmm. à peu près, dit, quand vous marchez, quand vous posez le pas sur la terre, dites-vous que la terre n'est pas un corps inanimé, c'est un corps animé. Et donc, je crée une empreinte, une trace sur cette terre.
C'est du vivant sur du vivant.
C'est du vivant sur du vivant, exactement. Et dans ce sens-là, rien ne vous empêche de dire à chaque pas, je plante la paix, j'embrasse la terre. Il y a comme un rapport tout à coup très amoureux, une sorte de compassion, de sentiment de compassion qui nous illumine dans le fond, dans la marche que nous faisons. Tu sais? On n'a pas les deux mains dans les poches en train de penser à appeler un tel ou à penser peut-être faire un voyage. Gardez-vous ça. Quand c'est un moment privilégié, tu sais, quand on entre dans un temple, habituellement, on ne se met pas à jacasser. Hein? Ben, quand on marche sur la terre, moi, les Premières Nations m'ont appris que la terre, c'est sacré. Parce que la terre nous permet de vivre. Elle nous donne sa nourriture. Et en même temps, elle nous apporte une certaine joie qui est le début de la sagesse, dans le fond. Alors, dans ce sens-là, je pense que ça vaut vraiment la peine si on veut se détendre et décrocher du stress ambiant, des sollicitations, c'est de revenir à soi. Nous avons à l'intérieur de nous une île à soi, et c'est peut-être cette île à soi que nous voulons d'ailleurs dans une espèce de tranquillité. Vous savez, un lac le matin, il n'y a pas de vent, c'est un miroir.
C'est calme.
Et si on avait ça dans le cerveau, ce calme-là, hein, et on se met à marcher, embrassez la terre de vos pas avec l'ensemble de votre corps. Engagez-vous, investissez-vous complètement. Et c'est dans ce sens-là que la marche, à mon avis, pour moi, elle est plus utile que la course à pied. Et Dieu sait si j'ai fait de la course à pied dans ma vie. J'ai même usé mes articulations à faire ça, mais j'ai réalisé que la marche n'était pas un pis-aller par rapport à un sport que je pratiquais. Je l'ai appris en m'engageant totalement. Là, j'ai compris que marcher, c'est quelque chose qui exige une présence à soi.
Et cette conscience dans la marche introspective vous permet de mieux marcher de toute façon à la marche active.
Oui, absolument.
En fait, vous pratiquez les deux.
Oui, absolument. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué de travailler avec le haut du corps. Hein? Quand on se retrouve comme, comme à faire un travail clérical, par exemple, le haut du corps, il est penché. Il suffit de voir à l'écran, devant un écran, comment les gens se tiennent. Okay? Maintenant, je sais que dans certains bureaux, on a maintenant des bureaux télescopiques qui permettent aux gens peut-être même de travailler debout parfois. Je suggère aux gens de ne jamais rester assis plus de 50 minutes à la fois. Et il y a un 5 minutes là qui devient essentiel de s'étirer un petit peu, de prendre de l'oxygène, de marcher autour du bureau s'il le faut, de se rasseoir. D'ailleurs, il aurait été démontré qu'en faisant cet exercice de 5 minutes à toutes les heures, on augmente la productivité du travail. Pourquoi? Parce que d'être penché comme ça sur son écran, ça épuise aussi le corps. Et on a de la difficulté. Et quand on arrive à la maison le soir, on n'a même pas le goût de sortir pour aller marcher parce que notre corps est comme quelque chose, un fardeau qu'on transporte. Il faut arrêter de concevoir la marche comme un fardeau. Au contraire, la marche nous libère. Elle libère tout le corps. Oui. Et libérant tout le corps, elle libère aussi tout l'esprit. Et nous fait sourire. C'est quand même précieux de sourire dans la vie.
De plus en plus. De plus en plus. Je reviens un tout petit peu à l'exercice, la musculation. Vous m'avez dit quelque chose un peu plus tôt que vous avez quand même à la maison des poids et haltères.
Oui, oui.
Mais tout petit.
Oui. Je travaille, quand je travaille avec un poids, par exemple, c'est pas plus qu'un kilo. Donc,
c'est
je travaille
petit,
avec les deux, c'est ça, exactement. Et je travaille couché, sur le dos, en levant mes bras, essentiellement. Et là, je travaille aussi dans l'inspire et l'expire. Alors, quand je sais que je fais un effort, si je fais un effort plus important en montant le bras, je vais inspirer. Mais je vais faire très attention également en descendant les bras, parce que j'ai des poids, évidemment. Et peut-être que je vais expirer, mais sans laisser les bras aller. Je les contrôle. Je suis toujours en contrôle. Ça va avoir l'avantage de renforcer les muscles, entre autres le triceps et le biceps. Donc, à la tête de l'humérus, qui est l'os, évidemment, qui va de l'épaule au coude, ces muscles-là sont importants pour une chose, parce que quand je vais les activer en marche active, tout simplement, j'ai pas besoin de bâton pour le faire, mais si vous avez des bâtons, faites-le, mais au lieu de planter vos bâtons à 90 degrés, plantez-les dans une inclinaison vers l'arrière quand vous les plantez, de telle sorte que vous allez tenter de vous pousser maintenant, de vous propulser avec le bâton. Même un bâton de marche peut suffire. On n'a pas besoin d'ouvrir si grand. C'est juste de sentir tout à coup que, ah, là, je fais un effort. Et à partir de ce moment-là, il y a une étincelle qui va se produire parce que vous allez renforcer les muscles que vous avez, le biceps et le triceps, mais ça va réveiller également les muscles transversaux, les muscles, les obliques, et ça va aller jusqu'au bassin. Les intercostaux vont travailler aussi. Ça va vous permettre d'avoir une légère torsion également du haut du corps. Faites attention cependant à vos épaules. Ne travaillez pas des épaules, travaillez des muscles des bras simplement. Et ne forcez pas, faites simplement sentir quand le bâton pique le sol et qu'il est bien amorcé de vous propulser légèrement en allongeant cette fois-là le pas. Donc vous allez fléchir avec le jarret, vous allez osciller et vous extensionner avec le quadriceps. On n'est pas obligé de faire 75 cm par pas, on peut en faire 50 cm ou 60 cm, c'est pas plus grave. L'idée, c'est de toujours être en conscience dans le moment présent et vous allez sentir tout à coup que oh, le haut du corps se met à travailler, que ce soit les pectoraux, que ce soit les abdominaux, que ce soit les obliques, que ce soit les bras. Et là, vous demandez autant d'efforts à vos muscles du haut qu'à vos muscles du bas, c'est-à-dire de la jambe. Vous êtes complet. Vous n'êtes pas tout à coup un infirme qui travaille que de la chaîne des pieds au bassin, mais la tête est impliquée dans ce mouvement-là. La tête, parce que, n'oubliez pas, vos épaules reposent bien sur la ceinture scapulaire, votre cou est allongé. De chaque côté du cou, vous avez des muscles très importants qu'on appelle le sternocléido-mastoïdien. Vous pouvez toujours aller sur l'Internet. Sternocléido-mastoïdien, vous allez voir, c'est vraiment les muscles du cou qui nous supportent de chaque côté, juste derrière le bas de l'oreille, et ça va se rattacher presque aux clavicules. Plus vous allez vous tenir droit, plus ces muscles-là aussi vont prendre de la vigueur et vont se renforcer. Au début, on se dit toujours « Ah, j'y arriverai pas » parce que, tu sais, vous avez perdu l'habitude, puis aussi la conscience de votre corps. Mais cette conscience-là, vous allez l'acquérir à chaque jour. Quand on commence un entraînement, je dis toujours aux gens, vous savez, quand on commence un entraînement, la première chose qu'il faut, patience et humilité. Et ne pas se voir tout à coup dans une espèce d'automatisme, là, hein, on a gagné la 649, bang! On ne gagnera pas la 649 avec notre corps. On va acquérir un bien-être extraordinaire avec notre corps, mais en y mettant le temps, en acceptant. Et de toute façon, vous savez, quand on est à la retraite, normalement, on dispose de ce temps précieux et là, vraiment, on le met en valeur.
Normalement.
Normalement, oui. Ben moi, ce que
je souhaite... Il y a des gens qui sont très actifs à la retraite.
Oui, oui, c'est ça. Puis en fait, ça rend l'exercice tellement extraordinaire et plaisant. Et de le faire en groupe, moi, je le conseille. En groupe, on s'encourage. Et si vous avez des entraîneurs qui vous demandent de l'argent, en autant que ce n'est pas des sommes énormes, habituellement, ça ne coûte pas très cher, faites-le, ça vous engage. Souvent, quand on est obligé de payer pour faire l'exercice, il y a de bonnes chances que... Nous, on fait des enveloppes, par exemple, de 8 semaines à 2 fois par semaine. Les gens viennent systématiquement et la plupart nous disent « C'est parce que j'ai payé au début que je suis venu à tous les jours, parce que je voulais pas perdre mon argent. » Mais de toute façon, vous gagnez pas mal plus avec ce plaisir qu'on a de vivre et puis aussi de se faire des amis en groupe. La seule chose, cependant, puis c'est une petite remarque, là, mais j'ai rien contre ces gens-là, pas du tout, c'est que moi, je travaille dans les sentiers du Mont-Saint-Bruno et il y a beaucoup de groupes de marche qui viennent. Et quand je marche avec mes groupes, habituellement, je demande le silence. Il y a des moments où on va échanger ensemble, là, parce qu'il y a un aspect social aussi à la marche, puis je ne veux pas le nier.
Oui, oui.
Mais quand on donne un entraînement, je dois faire de l'observation. Je ne peux pas faire de l'observation si mes marcheuses ou marcheurs parlent entre eux. Eux-mêmes perdent à ce moment-là la présence et vont reprendre des vieilles habitudes. D'accord? Donc, mais beaucoup de groupes, malheureusement, viennent essentiellement pour l'aspect social et ils n'ont pas comme de guide qui les observe pour dire « Oh, attention, parce que tu es désaligné et à force de marcher, tu risques d'aggraver, en fait, des blessures ou des sensations plutôt déplaisantes, tu sais? » Et ça dérange aussi dans une certaine mesure. Alors, je veux juste pondérer parce que je veux pas parler contre les gens qui vont marcher dans des groupes et qui se mettent à parler. Ils ont tout à fait raison qu'ils le fassent et tout ça. Mais ça serait sympathique peut-être au début de simplement prendre conscience, quelle est ma position? Est-ce que je mets mes mains dans mes poches quand je marche? Est-ce que vraiment j'ai un balancement naturel, mais que je... tellement faible que finalement, il n'y a rien de mon corps, du haut de mon corps qui bouge. C'est juste ces petites remarques qui parfois vont faire toute la différence sur ce que vous allez acquérir de santé et de bien-être en faisant de la marche.
Pour bien apprendre la technique, dans le fond, c'est ça.
À mon avis, oui. Oui. C'est important.
Donc, la marche active, je tente de résumer. Posture,
oui.
Respiration, concentration. Est-ce qu'il y a autre chose, sommairement? L'exercice, la musculation, on l'a vu, en prenant de bonnes habitudes de marche et quelques petits exercices de torsion, on arrive à compléter l'entraînement complet.
Je pense que vous avez très, très bien résumé. Cependant, j'ajouterais que le souffle est important et que c'est votre respiration qui va déterminer le rythme de vos pas. Et non pas le pas qui va déterminer votre souffle. Parce que ça, c'est l'envers de la nature. Okay? Et au niveau de la respiration, je tiens à préciser, ayez un inspire un peu plus court que l'expire. Ça va vous permettre de dégager davantage le carbone que vous avez accumulé, parce que c'est ce que fait l'oxygène. L'oxygène vient se mêler dans son échange gazeux au sang, hein, à l'hémoglobine, mm-hmm. et par le cœur, qui est une pompe, va pomper cet oxygène-là à travers tout le corps, à travers tous les organes, à travers tous les muscles, également les os, de telle sorte que vous allez dégager davantage, toutes les toxines de votre corps vont sortir par les poumons encore dans l'échange gazeux de carbone, le dioxyde de carbone. Et ça, c'est extrêmement sain. C'est pour ça que j'insiste sur la respiration, parce que le souffle peut nous emmener à un exercice de concentration.
Tout à
Cet
fait.
Exercice de concentration nous amène à l'attention et ainsi de suite.
Michel, nous prenons une autre courte pause et au retour, le Model T Ford des années 2000 et votre aventure dans l'Ouest canadien. On en parle tout de suite.
Oui, d'accord.
Alors, nous sommes en compagnie de Michel Desgagné. Michel, je blaguais un tout petit peu là avant la pause, le Model T des années 2000, mais l'écran téléphone, l'écran de l'ordi, l'écran de télé, quoi que ce soit, c'est un peu la catastrophe.
J'ai bien peur que oui. J'ai bien peur que les jeunes d'aujourd'hui remplissent les cabinets médicaux dans les prochaines années. Et on a parlé tantôt de la pression qu'exerce la position de la tête, des épaules affaissées, de la poitrine complètement... Bon. Alors, on est en pleine croissance quand on est jeune. Les os sont en train de se former.
On forme le corps humain.
On forme le corps humain. Et si on le forme de cette façon-là, on va se retrouver à 30 ans dans une situation où on va avoir tellement de malaise qu'il va falloir qu'on réapprenne, dans le fond. Un peu comme on le fait aujourd'hui, mais c'est moins pire. Mais là, quand je vois les écrans, les games surtout, là, les jeux qui se posent un stress, donc aussi, hein, de l'adrénaline, donc aussi de la position du corps, et qui est toujours tendue, je peux comprendre là qu'on se réserve de très mauvaises surprises dans l'avenir. Maintenant, nous, on a été victimes, notre génération, plutôt, moi, je suis né en 49, on est victime de l'automobile. On est victime également d'un urbanisme qui a été consacré à l'automobile. Donc, on ne fait plus rien, même qu'on va chercher, par exemple, notre litre de lait, parfois, même à un kilomètre et demi. On va y aller en voiture. Donc, on fait tout en voiture. Et ça, évidemment, ça a créé une sorte de prospérité, on le sait, parce que c'est souvent dans certains pays développés la base même de l'économie, hein, dans la construction d'automobiles, la fabrication d'automobiles. Et je ne crois pas personnellement que les voitures électriques vont changer la donne au niveau de notre corps, hein, parce que c'est toujours une position assise, c'est toujours une position passive, et c'est toujours un urbanisme qui est consacré à l'automobile individuelle.
Alors, qu'est-ce qu'on peut suggérer?
Moi, je suggère d'abord les parcs urbains. Si on est près d'un parc urbain, c'est l'idéal. Je suggère d'emprunter les rues, souvent les rues en cul-de-sac, parce que ces rues-là ne sont pas des artères très passantes. C'est toujours important de faire attention à la qualité de l'air qu'on inspire. Comme j'ai dit tantôt, si la marche commence d'abord par l'inspire et l'expire, il faut juste s'assurer que ce qu'on inspire soit assez propre. Hein? On se comprend. Donc, mais les boisés, il y a des boisés autour de Montréal. On s'en va de plus en plus vers le concept d'un green belt, c'est-à-dire d'une ceinture verte. Donc, on va exploiter de plus en plus ces milieux-là. J'entendais Mme Plante récemment qui s'en allait vers un objectif de 30% de milieux naturels à Montréal d'ici 2050 ou peu importe. C'est à peu près les meilleures nouvelles qu'on peut pas attendre. Là, on en a besoin. On n'a pas parlé de crise climatique et tout ça. Il y a effectivement une urgence. Et on va être d'autant plus sensible si on marche et si on pratique la marche. Parce que pourquoi? On va être sensible à l'air qu'on respire. T'sais?
Vous m'aviez parlé avant l'entrevue d'enseigner la marche aux enfants.
Ah,
je trouve le concept intéressant.
Oui, absolument. Moi, je pense que ça devrait s'inscrire dans le cursus scolaire. Je sais qu'on parle beaucoup du français ces derniers jours, la qualité du français, de l'écriture et tout ça. Je pense qu'on pourrait parler également de la qualité de notre posture, de notre position. La marche a beaucoup d'avantages, on le sait, déstresse, détente. Et qui dit détente, dit une meilleure disponibilité pour apprendre. Et dans ce sens-là, ne trouvez-vous pas, Denis, qu'il y a une aberration à prendre des enfants de 5 ans, 6 ans, jusqu'à l'âge adolescent, où c'est toujours assis? On a appris à apprendre assis. On n'a pas appris à apprendre actif, mais passif. On s'emplit comme des outres. Très souvent, on oublie parce que, pour bien d'autres aspects. Alors, moi, je pense que le cursus scolaire devrait comprendre une petite marche à tous les jours avec les enfants. Autrement dit, d'avoir peut-être des activités, les récréations. Là. Il y a 15 minutes le matin, il y a 15 minutes l'après-midi. Pourquoi, dans ces récréations, on ne favoriserait pas avec les enfants qu'est-ce que marcher? Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que la posture? Qu'est-ce que l'attention? Qu'est-ce que la présence à soi? Qu'est-ce comment respirer? Et ainsi de suite, de telle sorte que les enfants vont grandir comme un élément fondamental de leur mieux-être.
Parce que c'est une question de santé publique aussi, quand même.
Absolument.
On part de la forêt, les parcs urbains, et on se dirige vers l'Ouest canadien. Vous avez un projet que je trouve fascinant. Vous avez parlé aussi de Premières Nations.
Oui.
Vous organisez pour septembre
c'est ça,
prochain.
Septembre 2023.
Oui. Une randonnée le long des sentiers des Premières Nations autochtones.
Oui.
Pourquoi? Comment?
D'abord parce que j'aime bien ce coin de pays, ayant été reporter pendant quelques années sur la côte ouest à Vancouver. Donc, j'ai eu l'occasion de traverser le détroit de Georgie qui sépare Vancouver de l'île de Vancouver. Et du côté ouest de l'île de Vancouver, il y a d'ailleurs qu'une seule route qui s'y rend. Et quand on arrive sur la côte, il y a une seule route qui fait 60 kilomètres à peu près et qui longe la côte. C'est tout. Donc, sur ces 60 kilomètres, on retrouve à peu près une quinzaine de clans, qu'on pourrait appeler nations aussi, qui se sont constitués en fédération et dont le territoire s'appelle le Nootchatnult et qui comprend d'immenses plages, évidemment des plages sauvages, on va se comprendre, de même que des montagnes et à l'intérieur desquelles on retrouve des sentiers millénaires. Le plus vieil établissement, on parle de la région entre Iqaluit et Tofino. Tofino est mieux connu puisque c'est un peu la capitale du surf au Canada. On parle d'un territoire absolument exceptionnel quant à sa beauté, évidemment, quant à ses paysages puissants d'énergie, parce que là, on est carrément devant le Pacifique. À Vancouver, on n'est pas devant le Pacifique, on est devant un détroit, ce qui est différent. Et quand on est sur la côte est de l'île de Vancouver, donc on est sur le détroit de Georgie aussi. Alors, il faut vraiment traverser l'île de Vancouver pour se rendre là.
Et qu'est-ce qui vous intrigue des sentiers des Premières Nations, des Autochtones?
D'abord, c'est de très, très vieux sentiers. Les établissements humains sur cette côte datent de 4000 ans. Entre 4000 et 5000 ans, il y a des artefacts qui le prouvent. Ils sont entre deux, ce qu'on appelle des estuaires ou des sounds en anglais, on pourrait dire traduit par B, mais le terme est peut-être pas très juste, entre deux immenses estuaires, l'estuaire du Clyocot et l'estuaire aujourd'hui qu'on appelle Berkeley, mais qui était à l'époque le Nootka Sound, le nom plus indien. Et entre ces deux B, il y a vraiment une série de sentiers côtiers, forcément, puisque c'était des chasseurs de baleines. Et c'est absolument extraordinaire de voir maintenant à quel point nous entrons, peut-être grâce à, entre autres, cette commission fédérale de la vérité, de réconciliation, une sorte de décolonisation des infrastructures touristiques où les Premières Nations sont en train de prendre en main. C'est leur territoire. La notion du territoire chez les Amérindiens, c'est d'abord une notion de communauté vivante. Vivante à la fois par sa nature, sa faune, ses plantes, mais aussi par ses êtres humains. Et pour eux, donc, ce n'est pas du wilderness dans le sens où je vais, par exemple, en Tanzanie, faire un safari pour aller voir des bêtes sauvages, mais il y a des Maasai qui sont là, mais je ne les vois à peu près pas parce que ce n'est pas pour ça que je vais là. Or, moi, je fais l'inverse. On va d'abord à la rencontre de communautés vivant sur un territoire vivant.
Parce que nous avons beaucoup à apprendre, surtout peut-être à échanger.
Exactement. Et dans ce sens-là, je me suis organisé pour que dans ces 10 jours de marche, on puisse avoir le soir des présentations le plus visuelles possible avec des personnalités autochtones, des Premières Nations, qui vont venir nous expliquer différents aspects de leur culture. Donc, on va en hiking, hein, en randonnée, mais on va traverser des territoires qui sont sanctifiés par la présence millénaire de ces Premières Nations. Et donc, ce rapport-là est intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi comme camp de base un écolodge qui est situé dans un jardin botanique dédié aux forêts pluviales et qui appartient aux Premières Nations. Et on va occuper toute l'auberge, qui est munie également d'une salle de conférence où le soir, les gens vont pouvoir librement, hein, personne n'est obligé, librement prendre connaissance d'une culture absolument extraordinaire.
Et cela vise aussi le développement socio-économique des Premières Nations, donc cette décolonisation dont vous parlez, et cette intégration, si c'est peut-être le mot juste, avec la société d'aujourd'hui.
Oui. C'est une sorte d'immersion, en fait, là, où on fait un pont entre les cultures. En plus, il faut comprendre que Clayoquot Sound, qui est une des baies que j'ai mentionnées tantôt, fait partie maintenant du patrimoine mondial de la biosphère de l'UNESCO. Dans ce sens-là, la biosphère de l'UNESCO, c'est pas simplement pour protéger des beaux paysages, c'est en même temps pour assurer un développement socio-économique et culturel, une protection de la culture, mais en même temps aussi une protection de l'écologie sur place. Et là, on va avoir une conférence justement des gens de la biosphère de l'UNESCO qui vont venir nous parler des signes vitaux. Comment j'ai pris l'endroit et comment on avance avec les Premières Nations à développer certains aspects. Écoutez, c'est sûr que il y a un phénomène d'acculturation là, qui s'est fait aussi chez les Premières Nations. On le voit au Québec comme on le voit. Mais il y a comme un éveil extraordinaire qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les excellents reportages documentaires qui passaient à Radio-Canada récemment, le samedi soir à 9h, et qui étaient la parole des Premières Nations. Moi, en tout cas, j'ai adoré ça et tout le programme est fait dans ce contexte d'une interculturalité entre nous et les Premières Nations.
Comment vous voyez l'avenir de, justement, cette interculturalité dans les années qui viennent?
Moi, je trouve que les signes sont extrêmement encourageants et ça va beaucoup plus vite qu'on le pense. Il suffit de... Écoutez, à CBC Radio... vous avez à chaque semaine maintenant, le samedi soir, à 18h, une émission complète des nouveaux artistes des Premières Nations canadiennes. Et il y a des performances là qui sont absolument exceptionnelles. Vous avez aussi avec Natacha Canapé, je crois, à Radio-Canada, la radio de Radio-Canada. Je parle de la radio. Je suis plutôt un homme de radio que de télévision dans mon cas. Dans le cas du documentaire, forcément, c'est visuel, donc c'est à la télévision. Mais j'écoute plus la radio et je me rends compte effectivement qu'il y a là des artistes exceptionnels et ça nous familiarise aussi. On a besoin de ça, nous, qui vivons dans un milieu urbain. Quand on va dans la nature, j'aime autant aller dans la nature avec les gens qui vivent dans la nature.
Et comment on effectue ce rapprochement? Ces deux visions du pays, deux visions de la Terre, comment on assure ce rapprochement?
Avec l'urgence de la situation écologique dans le monde et la planète actuellement, je crois que nous avons besoin beaucoup, beaucoup de la perspective des Premières Nations par rapport à la nature.
Alors, Michel, en guise de mot de la fin, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur la marche active, de nous avoir parlé de ce projet dans l'Ouest canadien où on vise le rapprochement des cultures. Et vous avez aussi une recommandation pour
oui,
les auditeurs.
Oui, on a parlé beaucoup de marche active, mais il y a un livre. En fait, pour moi, c'est un petit peu la Bible. Quand je suis venu avec vous, c'était la marche nordique. Il y a un livre en marche nordique aussi. Mais en marche active, je conseille beaucoup celui de Jonah Hall, qui est une Britannique. Mais la version française existe maintenant. Ça s'appelle « La marche active pour tous ». Ça, pour tous, c'est très important à Santé à pied. Parce que nous, ce n'est pas de la performance qu'on cherche. C'est une notion de communauté de marcheuses et de marcheurs. Et on doit s'accepter tel que nous sommes. Et on va s'améliorer ensemble petit à petit.
Très beau mot de la fin, Michel. Et encore une fois, merci beaucoup de votre visite aujourd'hui.
Ce fut un plaisir, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode, y compris, évidemment, celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup à notre invité Michel Degagné de nous avoir incité de manière si persuasive à effectuer ce grand virage de la marche passive à la marche active. Nous nous en porterons tous que mieux. Merci également à notre fidèle collaborateur à la technique, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse sur cette citation de Jean-Louis Étienne. « La paix intérieure de chacun est le premier acte d'apaisement du chaos collectif. » Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.